Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont bon.
J'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good.
Pendant longtemps, je ne savais pas exactement quel type de vin j'aimais. Je disais « minéral, s'il vous plaît » pour le vin blanc, et pour le vin rouge, je demandais quelque chose qui avait du corps tout en étant fruité. Et c'est un caviste qui m'a un jour fait réaliser un truc. Si j'aimais la douceur des Bourgognes et le côté délicatement charpenté de certains vieux Bordeaux, c'est que j'aimais les vins du Languedoc-Roussillon. J'ai trouvé ça génial d'être aiguillée de cette manière. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les vins. Comment les choisir, comment les déguster, avec quoi les accommoder. J'ai toujours aimé boire des bières en terrasse, mais je trouve couvrir une bouteille de vin avec des copains, lire l'étiquette, réfléchir au cépage, ça, c'est une façon de voyager. Parce que chaque bouteille est différente et raconte une nouvelle histoire. C'est dans cet état d'esprit que l'année dernière, j'ai passé un diplôme de niveau 1 reconnu par la profession à l'école du vin à Paris. Lors des trois premiers rendez-vous de cette nouvelle saison, je vais vous emmener sur des sujets propres à mon univers, histoire qu'on fasse connaissance. Et pour ce premier épisode de la saison 3 de Bouffon, j'avais envie de sortir de l'assiette pour parler de ce qu'il se passe dans nos verres. Discuter de vin, un peu comme si on prenait l'apéro ensemble. Des idées de problématiques très précises me sont d'abord venues en tête. Mais en réfléchissant ensemble chez Nouvelles Écoutes, un constat s'est imposé. Quand il s'agit d'œnologie, il y a les connoisseurs et ceux qui n'osent pas parler de vin. Laura, la productrice de l'émission, m'a même appris que dans certaines écoles de commerce, on met en place des modules pour apprendre aux élèves à savoir choisir une bonne bouteille, parce que c'est toujours utile lors de la signature de gros contrats. Alors pour décomplexer les uns, mais aussi pour faire réviser les autres, on a choisi de commencer par poser les bases. Comment faire son choix dans une cave à vin? Quelles sont les étapes de la dégustation? Faut-il suivre certaines règles? Il y aura plein d'autres épisodes sur le vin, mais celui-ci est d'abord une entrée en matière. Pour nous accompagner dans ce cours en accéléré, j'ai choisi d'inviter deux personnes qui sont un peu mes parents du vin. D'un côté, Antoine Guégan, mon caviste qui tient les caves Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. C'est lui qui me conseille si bien depuis maintenant plusieurs années.
Ce qui est important, c'est qu'il faut laisser la personne choisir. Il ne faut pas choisir non plus trop à sa place, même s'il y a une confiance qui s'installe. Et en réalité, c'est moi aussi qui prends la décision de la bouteille. Mais il faut laisser la personne choisir parce que même si c'est un pique-nique et qu'il fait très chaud, peut-être que la personne, elle préfère des vins bien puissant, très concentré et bien rond. Il ne faut pas lui empêcher ça, parce que de toute façon, si on lui envoie un vin un petit peu plus acide, il ne va peut-être pas aimer.
De l'autre, Sandrine Audegon. C'est grâce à cette prof incroyable et consultante en vin que j'ai obtenu mon diplôme de niveau 1 à l'école du vin. Après avoir reçu un manuel à potasser à la maison, j'ai passé une journée dans une classe animée par Sandrine à faire des exercices pour apprendre à déguster. Il y a un exercice qui m'a particulièrement marqué. Sandrine nous a fait sentir une succession de flacons avec des odeurs distinctes et elle nous a demandé de les identifier. En analysant le premier flacon, j'ai d'abord cru sentir du cassis. Mais quand ensuite un autre flacon est arrivé sur la table, à nouveau j'ai senti du cassis. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le premier sentait en réalité la mûre.
En fait, la mémoire qu'on a des odeurs, elle est extrêmement profonde, elle est extrêmement intime chez l'être humain, mais en même temps, elle est très peu sollicitée. Et quand on fait des exercices où on apprend à approcher les arômes un par un, c'est très déstabilisant parce qu'en fait, on connaît tout, mais c'est le mot qu'on n'arrive pas à replacer. Et c'est le but de cet exercice. Et comme le vin est extrêmement riche en arômes, on considère à peu près aujourd'hui qu'il y a à peu près 200 arômes dans chaque verre de vin. La plupart, on ne les sent pas parce qu'ils sont en dessous du seuil de perception de notre odorat. Mais en fait, le vin est extrêmement riche. Donc s'éduquer, effectivement, vous avez le bon mot, c'est constituer une bibliothèque d'arômes. C'est le premier pas vers le vin parce que c'est l'une des ressources que le produit va vous procurer.
Ce qui est assez chouette, je trouve, avec cet exercice, c'est que, quelque part, ça aide à décomplexer, puisqu'on s'aperçoit que, la plupart du temps, si on n'arrive pas forcément à trouver le bon mot tout de suite, c'est juste parce qu'on n'est pas assez entraîné.
Oui.
Mais quand on a tout sous la main, finalement, on arrive plus ou moins à jouer ce jeu-là de reconnaissance.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dis souvent que la dégustation, c'est un art, c'est pas une science. C'est-à-dire que, comme tout art, c'est basé sur une pratique. Et plus on pratique, meilleur on est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui ont des dons, qui les mettent au-dessus du reste de l'humanité. Personnellement, j'ai pas de dons, j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Mais c'est juste une question d'entraînement et de familiarité avec le vin. En fait, on devient un bon dégustateur en dégustant beaucoup. Et en prenant les choses, je dirais méthodiquement, calmement, prendre le vin comme il vient. Et l'aborder avec des mots simples, des gestes simples, c'est le meilleur moyen, je pense, de le faire parler.
D'accord. Alors, donc, le cours est super bien fait parce qu'il y a ce manuel qu'on reçoit en amont avec des petits schémas, des tableaux qui associent donc les cépages à différentes informations. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui n'ont pas ce manuel et qui n'ont pas eu la chance de passer cette heure avec vous, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, là, comme ça, à l'oral? Quelles sont les bases de la dégustation d'un vin?
Alors, il y a une première chose, c'est que la dégustation, la première chose à faire, c'est vraiment faire, la pièce en trois actes. C'est-à-dire regarder le vin, sentir le vin et goûter le vin. Et goûter ne viendra qu'en troisième. C'est-à-dire que boire le vin, c'est le geste le plus naturel, c'est le plus spontané. C'est donc celui qui doit arriver en dernier si on veut véritablement comprendre quelque chose au vin. Le regarder, c'est important. Surtout aujourd'hui, par exemple, avec les vins nature qui sont des vins qui sont non stabilisés.
Oui.
Il y a énormément de vins nature qui sont légèrement troubles, parfois très nuageux, hein, comme un nuage qui traverserait le ciel et qui trouble un peu sa clarté. Il y a des vins qui sont comme ça. Et le fait est que l'aspect, la couleur du vin est déjà assez parlante sur son âge. Donc la première chose, c'est de regarder. La deuxième chose, c'est de le sentir. Alors, ça plaît ou ça déplaît? Ça ne doit vouloir rien dire. C'est-à-dire, en dégustation, on doit garder une certaine liberté, un certain détachement par rapport au vin. Ça peut plaire ou déplaire, mais au moins, on voit un petit peu la force d'expression qu'il a. Et c'est probablement le plus important. C'est pas trop de dire j'aime ou j'aime pas. Pas tout de suite. Laissez-lui une chance. Mais c'est surtout de voir quelle puissance d'expression. Et là aussi, vous savez, c'est pas les gens qui chantent le plus fort qui chantent le mieux. Personnellement, je suis pas une fan de Céline Dion, vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai rien contre elle, mais franchement, c'est pas mon genre de musique. Il y a des vins qui sont discrets au nez, discrets à l'expression, mais qui sont extrêmement parlants, qui vous emmènent extrêmement loin. Et ensuite seulement, c'est de le goûter. Et vous allez voir que le temps que vous aurez pris entre le moment où il est versé dans votre verre et le moment où vous le goûtez, déjà, ça vous donne une autre attitude vis-à-vis du vin, qui est beaucoup plus exigeante, mais en même temps beaucoup plus perméable. Donc, vous allez laisser passer des choses, vous allez laisser le vin venir à vous. Et ça, je pense que c'est la première bonne attitude du dégustateur. Après, il y a des gestes. Il y a des gestes tout simples, c'est-à-dire, ça paraît tout bête, mais il faut un vrai bon verre à vin. Il faut un verre parfaitement transparent, avec un pied. Ne mettez jamais les mains sur le gobelet, toujours par le pied.
Pour ne pas chauffer le verre.
Voilà, et ne pas chauffer, si c'est un vin blanc ou un vin rosé, il faut pas chauffer. Donc effectivement, la chaleur de la main, il faut la tenir éloignée. Et puis aussi, alors d'ailleurs, pour l'effervescence, si vous aimez vraiment les effervescents, c'est-à-dire c'est pas seulement le truc à bulles pour désaltérer comme ça, c'est intéressant de le mettre dans un verre à vin, voir ce qui se passe.
Oui.
C'est une première expérience où on sort un petit peu des sentiers battus, c'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. Et puis, des gestes tout simples, c'est-à-dire ce temps que vous allez prendre, et puis agiter le verre. C'est-à-dire, pour prendre un arôme, si vous laissez le vin au repos dans le verre, vous allez prendre, allez, grand maximum 15% des arômes. Si vous agitez une seconde, deux secondes, ça suffit. Vous faites monter le vin le long des parois, vous laissez retomber, vous mettez le vin en contact avec le nez directement, vous allez prendre 90 ou 95% des arômes. Et évidemment, il ne faudra pas vous étonner si vous avez tout de suite un autre univers qui s'exprime.
Oui. Donc d'ailleurs, pour sentir le vin, il ne faut pas hésiter à vraiment bien mettre son nez dans le verre.
Oui, ouais, ce n'est pas esthétique, mais effectivement, et c'est pour ça que les verres à vin, en fait, il faut les servir à peine à mi-chemin, de manière à ce que vous ayez de la place pour mettre le nez.
Oui.
C'est le but. Alors, encore une fois, c'est pas esthétique, mais c'est le but. Et c'est conçu pour ça, d'ailleurs. Hein.
Oui.
Il y a une cheminée qui rétrécit, en fait, et qui permet d'amener les arômes vers votre nez.
Alors, si je reprends donc les trois étapes que vous avez mentionnées, regardez le vin, donc la première observation. Qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là, lors de la première observation? Ça va être l'intensité du vin qu'on cherche à comprendre?
Oui, l'intensité. Alors c'est curieux. C'est curieux que votre première question sur ça concerne l'intensité, parce que l'intensité aujourd'hui est très à la mode. C'est-à-dire qu'il y a une mode en faveur des vins intenses, intensément colorés. C'est-à-dire, si je prends une comparaison avec l'aquarelle, c'est-à-dire il y a beaucoup de peinture et puis il y a pas beaucoup d'eau. Bon, on le voit même quand on lit des commentaires sur le vin, belle robe, profonde, intense, etc. Et donc intellectuellement, on fait le chemin et on se dit, ah bah, s'il est profondément coloré, c'est qu'il est bon. Eh ben non, ça marche pas du tout, parce que l'intensité, elle est très liée à deux choses. C'est un, le cépage, c'est-à-dire la variété de raisin qui est utilisée, et deux, l'âge. Alors la variété de raisin, si vous voulez, c'est un peu comme la peau humaine. C'est-à-dire il y a des peaux claires, des peaux mates, il y a des peaux noires, etc., etc. Selon la dose de pigments qu'elles ont. Bon, bah, les cépages, c'est pareil. Il y en a qui colorent fort, et il y en a qui colorent peu. Et prenez le pinot noir, par exemple. C'est un cépage qui colore très, très peu. Il a très peu de pigments. C'est ce qu'on appelle des anthocyanes, hein, dans les termes savants.
Oui.
Les anthocyanes sont peu abondantes. Il a une pellicule très fine. Et en revanche, donc il va donner des vins très clairs. Il faut savoir que le pinot noir donne tous les rouges de Bourgogne. J'ai pas connaissance que ce soit de mauvais vins. Donc, on voit bien que c'est pas corrélé. Donc, faut faire très attention à ça. L'intensité, c'est joli à regarder. Mais attention, il y a des robes très translucides qui annoncent des très, très, très bons vins. Dans la vallée du Rhône aussi, par exemple, avec les grenaches. Les grenaches sont très claires, pour la même raison, d'ailleurs. Et donc, il faut pas être victime de l'effet de mode. C'est pas parce qu'un vin est clair qu'il est bon. C'est pas parce qu'un vin est foncé qu'il n'est pas bon.
Oui, de pas associer donc une intensité faible ou soutenue à un vin qui serait meilleur ou moins
c'est
bien.
C'est ça. C'est ça, oui, effectivement.
Donc ensuite, il y a toujours dans le fait de regarder le vin, donc il y a l'intensité du vin, la couleur du vin aussi. Donc pour un vin blanc, je lis que ça peut aller de jaune pâle à jaune or en passant par jaune paille.
Mm-hmm.
Pour les rosés, on va avoir des rosés du coup roses, d'autres plutôt orange. Et pour le rouge, ça va du violet au grenat en passant par le rubis.
Oui. Donc. Oui. Alors ça, c'est un code de la route. C'est un code de la route parce que il faut se donner des repères. C'est important en matière de couleur parce que la couleur est un excellent indicateur d'âge. C'est-à-dire que les vins, alors ça, c'est côté simple de la chose, c'est que tous les vins blancs vont changer de couleur dans le même sens. Tous les vins rouges vont changer de couleur dans le même sens. Mmh. Donc ça veut dire que si vous constatez une teinte, et c'est là qu'il faut connaître le code de la route, si vous savez qualifier la teinte, vous savez à quel stade d'évolution le vin en est. C'est-à-dire, est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est évolué? Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un vin évolué? C'est 3 ans? C'est 5 ans? C'est 8 ans? J'ai pas de réponse parce que ça dépend d'un vin à un autre. C'est-à-dire, prenez deux personnes de 35 ans, il y en a une qui va en paraître 30, qui va être chanceuse, et l'autre qui va en paraître 40, qui va peut-être un petit peu moins chanceuse à ce stade. Voilà. Donc, on peut pas tirer de conclusion non plus. Mais en tout cas, vous avez une indication d'évolution.
Ouais.
Donc, c'est plus un code qui vous permet de dire, bon voilà, le vin en est à peu près à telle période de sa vie. Il est au début, toute l'histoire est encore à écrire. Ou au contraire, non, il est plutôt vers la fin. Attention, faudrait peut-être que je vide ce que j'ai comme stock. Ouais. C'est vraiment un très bon indicateur d'évolution, mais qui préjuge pas du millésime. C'est-à-dire, deux vins de 2015, peuvent être pour l'un grenat, pour l'autre rubis.
C'est
donc signaler des états différents.
Et donc, le meilleur moyen de regarder, d'analyser la couleur d'un vin, ça reste de le placer au-dessus d'une serviette blanche, par exemple.
Oui, surtout pour les vins qui sont très clairs. Effectivement, vous le prenez. Alors, il faut une ambiance qui soit suffisamment lumineuse, ça saute aux yeux. Mais surtout, effectivement, pour les vins qui sont relativement pâles, il faut un fond contrastant blanc. Et c'est là que vous allez voir le mieux la teinte et légèrement incliner le verre, comme si vous vouliez, par exemple, le faire sentir à la personne qui est en face de vous.
Oui.
C'est-à-dire que vous, au lieu d'avoir une grosse masse compacte, vous allez avoir plus de lumière qui va traverser la masse, et là, la couleur se révèle.
D'accord. Alors, pour vraiment goûter un vin, ce qui est bien aussi, c'est d'en aspirer une petite quantité, ça suffit, c'est ça?
Oui.
L'essentiel, c'est que le vin puisse recouvrir tout le palais.
Oui.
Et ensuite, on peut aussi analyser ce qui se passe au niveau de la langue.
Oui.
C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des vins putaniques, il va y avoir un côté astringent, comme on dit, qui va peut-être plus travailler les côtés de la bouche.
Oui,
un peu tout comme à fait. Si on avait envie de saliver.
C'est-à-dire que les capteurs du goût se trouvent sur la langue. Sauf que c'est toute notre bouche, enfin tout l'intérieur du palais qui est sensible. C'est-à-dire c'est comme votre peau. C'est-à-dire si on vous caresse ou qu'on vous frappe, ça vous fait une différence de sensation. À l'intérieur de votre bouche, c'est pareil. C'est-à-dire que la langue va s'occuper des saveurs fondamentales, c'est-à-dire sucré, salé, amer, etc. Et l'intérieur de votre bouche, il va fonctionner comme votre peau. C'est-à-dire, il va fonctionner d'un point de vue tactile. Donc, si par exemple vous avez un vin qui est très tannique, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tapisser l'ensemble de votre bouche. Donc effectivement, l'intérieur des joues, parfois même les gencives, ça va crisper les gencives, la chair. Parfois même, vous allez sentir que ça s'accroche sur les mailles de vos dents. C'est l'effet du vin, c'est-à-dire que dans le vin, dans le goût du vin, il y a les saveurs. Il y a des saveurs sucrées, des saveurs acides, mais il y a aussi du tactile, c'est-à-dire l'alcool, par exemple, l'alcool qui chauffe, le tanin qui accroche, qui agrippe toutes les parois de votre bouche, votre palais notamment aussi. Donc vous allez avoir un ensemble de sensations qui concernent tout votre palais. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre une petite gorgée, mais bien humecter l'ensemble de votre palais, donc langue, voûte palatale, intérieur des joues, plutôt que de prendre une gorgée comme si vous aviez l'intention de la boire tout de suite. Ouais. Donc c'est pas tout à fait le même geste. Et puis aussi, ce qui est important pour les arômes, c'est que quand vous avez pris votre petite gorgée, vous tirez un trait d'air, comme si vous vouliez respirer par la bouche, pour détacher les arômes, c'est-à-dire les relâcher dans votre palais.
Ce fameux petit bruit que
voilà qui est pas
faire.
Très élégant, effectivement. A toujours un petit débat quand on va au restaurant avec mon mari parce qu'il me dit tu vas pas grumer. Je dis bah si, tiens, bien sûr. C'est effectivement le révélateur des arômes. Donc ça fait un petit bruit. Bon, il y a moyen de faire discret. Hein. On n'est pas obligé de prendre une inspiration énorme, mais vous pouvez effectivement révéler les arômes avec un tout petit peu d'oxygène juste après avoir pris la gorgée.
Et le sucre, c'est ce qu'on va sentir plutôt au bout de la langue, le sucré.
Plutôt, oui. Oui, plutôt assez vite, assez fort et en premier, effectivement. Mais, la sensation du vin est en général, je dirais, ça va très, très vite. C'est-à-dire que le sucre, il va être, effectivement, on est assez sensible au sucre. Hein. Et donc, vous allez le sentir vite, mais dans l'ensemble, je dirais, la sensation du vin va être très rapide, d'une manière générale.
Oui. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est parfois quand on sent quelque chose qui pourrait connoter quelque chose de désagréable, mais qui est quand même agréable dans le vin. Par exemple, je trouve qu'il y a certains vins qui sentent la colle qu'on utilise quand on... espèce de petit pot de colle blanc qu'on utilise à l'école primaire. Il y a des vins, je trouve, qui sentent ça.
Oui. Oui, ça peut arriver, effectivement. Vous pouvez avoir des... Alors, je dirais, il y a deux choses. Dans le vin, il peut y avoir des défauts. Il peut y avoir des couacs. Le cas le plus connu, c'est le goût de bouchon. Bon, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Malheureusement, c'est assez fatal et en tout cas irréversible. Il peut y avoir des odeurs, effectivement, qui sont... Comment dire, qui peuvent être perçus comme désagréables, mais ça, c'est une question de goût, de niveau de tolérance, parce qu'elles peuvent être plus ou moins fortes aussi, qui sont en tout cas désarçonnantes. Bon, il faut laisser chacun libre, je pense, de dire je prends ou je prends pas, j'aime ou je n'aime pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir apprécier le vin, et c'est l'un des buts d'apprendre à déguster véritablement, c'est-à-dire de voir tout ce qui se passe dans un vin et peut-être de faire la part des choses entre ce qu'on aime et ce qui est bon. C'est-à-dire il y a des choses qui peuvent être bonnes mais ne pas vous plaire, et puis il y a des choses qui peuvent être moyennes et puis néanmoins vous pouvez y trouver un intérêt. Voilà, c'est comme en matière d'art, il y a des choses qui sont très belles mais qui ne parlent pas à tout le monde, et il y a des choses qui sont a priori belles mais qui laissent certains un petit peu dans l'indifférence. C'est à peu près le même rapport.
Voilà, les recommandations de Sandrine permettent de savoir par où commencer quand on veut déguster un vin. Mais avant cette étape, il y a celle de l'achat d'une bouteille. Et c'est ici que mon caviste Antoine intervient. Depuis que je le connais, je n'envisage plus d'acheter mon vin ailleurs dans le quartier. J'y suis fidèle comme à un libraire qui connaît mes goûts et sait que j'adore Annie Ernaux. Antoine, tu es mon caviste, tu es le boss des Caves Saint-Martin dans le 10e arrondissement à Paris. Raconte-nous un peu l'histoire de cet endroit.
Alors cet endroit, c'est une cave qui existe depuis plus d'un siècle maintenant. Donc ça a toujours été une cave à vin. Et moi, j'étais du quartier avant, j'étais jeune dans le quartier. Et puis j'ai des amis qui sont restés et qui m'ont dit « Tiens, la cave est à vendre ». Donc c'était il y a une dizaine d'années et j'ai pris le relais, quoi. Hein. Bon, l'activité a beaucoup changé parce qu'avant, c'était surtout du vin en vrac qu'ils vendaient. Ils remplissaient des bonbonnes, des tonneaux, des trucs comme ça. Et puis maintenant, bon, bah c'est de la bouteille. Hein, voilà. Donc c'est une histoire qui existe depuis longtemps, en fait, cette cave Saint-Martin.
Alors cet épisode, on a voulu le penser sur un ton assez pédago, à destination de ceux et celles qui aimeraient s'intéresser un peu mieux au vin. Moi, je trouve que justement, dans ta façon de parler à chaque fois des vins, tu as ce truc très généreux de pas prendre les gens de haut et de leur raconter l'histoire, justement, des rencontres que tu as pu faire avec les vignerons et les vigneronnes. Quel conseil tu as à donner aux gens qui n'oseraient pas pousser la porte d'un caviste ? Parce qu'il y en a, en fait, pas mal.
Bien sûr, moi je m'en rends compte aussi, c'est évident. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire au caviste « je regarde ». Ça aussi, ça peut être un frein. Parce que c'est souvent des petites structures hein, chez les indépendants. Et donc on est vite l'un contre l'autre, hein, enfin en tout cas face à face. Donc il y a des gens qui apprécient pas trop et ils préfèrent faire leurs achats tranquilles. Mais il faut le dire ça. Il faut dire, bah, je regarde, si j'ai besoin de vous, je reviens vers vous. Il faut vraiment pas avoir peur. En général, le caviste, il est pas méchant. Hein. Généralement, c'est pas quelqu'un d'agressif. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un de sympathique.
Donc le caviste n'est pas une personne agressive.
Complètement. Sauf quand il a soif, peut-être. Mais bon, il se soigne. Donc voilà, il faut déjà passer ça et se dire, bon, on va pas être embêté, quoi. Hein, parce que c'est souvent quand même le cas. Hein. C'est normal qu'on aille vers les gens. Et puis ensuite, bon, bah, il faut bien se dire que il y a plusieurs styles de caves. Il est vrai que maintenant, il y a beaucoup de caves qui sont spécialisées dans les vins naturels. Pour beaucoup de raisons, ça peut être plus cher. Donc, il y a certaines caves, effectivement, où on trouve pas quelque chose en dessous de 15 euros. Et après, il y a d'autres caves qui sont un petit peu plus ouvertes sur des vins qui pourraient être un peu plus conventionnels et compagnie. Et ils font toujours l'effort d'avoir une quille en dessous de 10 euros. Et souvent, il y en a beaucoup.
Donc, il faut pas avoir peur. Plein à proposer, d'ailleurs, en dessous
de 10 euros. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, surtout, avec des styles différents. Ça va d'un vin léger à un vin puissant. Enfin, ouais. Voilà.
Ouais. Comment on aide quelqu'un à savoir quel type de vin il aime ?
Alors, je pense qu'il faut pas se baser, en tout cas, sur une appellation. Très souvent, moi, j'ai des gens qui viennent, par exemple. Alors, il y a aussi une question de prix. Quand on me dit, bah, je voudrais un Côte-du-Rhône, je sais que la personne, elle veut pas mettre beaucoup d'argent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que dans l'inconscient, un Côte-du-Rhône, c'est le vin un peu paysan qui est bon et pas cher. Bon. Donc, en gros, il faut lui demander un petit peu les textures d'abord. C'est-à-dire, les arômes, ils sont quand même assez subjectifs. Donc ce qu'il faut, c'est se baser sur un peu d'acidité, beaucoup de tanin, quelque chose de doux en bouche ou quelque chose de frais, quelque chose d'un petit peu plus vif. Voilà, c'est surtout sur les textures, moi, que d'abord je m'aventure. Et ensuite, après, je compose avec ce que j'ai, quoi.
Et après, seulement viennent les arômes, alors. D'abord, le côté charpenté ou pas.
Le problème de l'arôme, c'est qu'il est assez subjectif. Donc moi, je reste quand même assez, pas vague, mais large, en disant, bon, bah ça va être très fruit rouge ou fruit noir. Déjà, il y a une petite différence. Ou alors, ça va être très frais, je vais dire qu'il y a des arômes un peu de vin un peu primeur. Donc les gens comprennent un petit peu la famille d'arômes qu'il peut y avoir.
Oui.
Parce que finalement, moi, quand je vais ressentir la cerise, l'autre personne va sentir le cassis peut-être, donc ça va peut-être pas le faire, quoi.
C'est clair.
Voilà, donc la texture, elle est très importante. Et souvent aussi, la question qui vient tout de suite, c'est en gros un vin puissant, un vin ensoleillé du sud, ou vous préférez quelque chose de plus léger.
Oui.
Déjà, on fait une un gros tri déjà.
Mais moi, ça m'est d'ailleurs déjà arrivé de venir chez toi et de dire bon ben là, demain on va faire un pique-nique, on va avoir surtout des petites choses à grignoter, des légumes, du houmous, des trucs un peu frais. Quel type de bouteille tu pourrais nous recommander? Et là, par exemple, si demain il fait chaud, tu vas nous dire bon ben pourquoi pas plutôt ce vin
léger, un vin léger, rouge qu'on peut mettre au frais, pourquoi pas aussi de temps en temps on en met là, on est en période estivale en ce moment.
Ouais.
Donc on met un petit peu de vin rouge au frais.
Et puis ton conseil va être différent si je te dis je vais préparer de la de la canette ou
ouais bien sûr après il y a tout ce qui est l'accord des mets et vins complètement, donc ça on est spécialiste hein, de ce genre de choses, donc ça il y a aucun problème. Mais aussi ce qui est important, c'est qu'il faut laisser la personne choisir. Faut pas choisir non plus trop à sa place, même s'il y a une confiance qui s'installe et en réalité c'est moi aussi qui prends la décision de la bouteille, mais il faut laisser la personne choisir, parce que même si c'est un pique-nique et qu'il fait très chaud, peut-être que la personne, elle préfère des vins bien puissants, très concentrés et bien ronds. Il ne faut pas lui empêcher ça, parce que de toute façon, si on lui envoie un vin un petit peu plus acide, il ne va peut-être pas aimer.
Ouais.
Donc c'est aussi la personne qui choisit.
Oui,
on pose cette question-là, de savoir ce qu'elle veut. Voilà.
Ouais.
Voilà, ça c'est le plus important.
Mais du coup, tu me fais réaliser que c'est vrai que tu proposes toujours au moins 3-4 bouteilles.
Tout à fait.
À la fin, c'est toujours la personne qui choisit quand
tout
même.
Tout à fait. Ça me met aussi un petit peu dans l'abri, dans le sens où je vais dire, bon, ok, vous avez pris cette option-là, c'est l'option costaude. Hein. Elle est un peu, il y a 14-15 degrés dans la bouteille. Ce qui fait que quand la personne me fait un retour, elle me dit, ah, vous aviez raison, c'était un peu costaud. Mais elle a pris la responsabilité, parce qu'elle était au courant.
Ouais.
Voilà, je vais pas faire un piège en disant, prenez ça, vous allez voir, c'est du sud, c'est un peu ce que vous vouliez. Et puis la personne va être déçue, va dire, putain, c'était quand même trop fort, quoi.
Ouais.
Alors que là, personne n'est au courant, elle a pris la décision. Donc il dit effectivement, alors, pour la prochaine fois, j'en voudrais un peut-être un petit peu moins fort.
Ouais.
Voilà, et puis comme ça, on compose et on y arrive, quoi.
Ouais. Je me demandais aussi comment on fait quand on est caviste, et que du coup, on est au contact de beaucoup de gens qui tentent de vendre leur vin, et c'est bien normal, de négociants aussi. Comment on fait pour garder un regard neuf, vraiment un regard à soi?
Alors, c'est intéressant. Je pense que ce qui est très intéressant dans le vin, c'est qu'il se réinvente chaque année, à chaque millésime, en fait. Le vigneron, lui aussi, finalement aussi, parce qu'il s'adapte et compagnie. Donc, en fait, c'est très, très vivant. Et moi, je trouve ça super. Surtout ces dernières années, avec tout cet emballement de jeunes vignerons qui veulent faire des vins propres, nature et tout. Moi, je trouve ça super. Et donc, c'est très, très vivant. Je garde aussi... je garde aussi un regard neuf parce que je fais partie de la société et donc il m'arrive de boire un Ricard, il m'arrive de boire un Pichet de Côte-du-Rhône. Donc je sais exactement ce qui tourne aussi autour. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement c'est peut-être un premier microcosme, mais en même temps moi je suis conscient de tout ce qui se passe ailleurs. Et quand je vais dans le Beaujolais, chez très très bon vigneron, bah parfois on va chez le voisin d'en face et c'est du cubi de rosé. Mais moi je suis ravi. Voilà, et c'est un rosé un peu poison, mais finalement c'est le moment, donc on est quand même connecté finalement à la société, quoi.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est, je crois, dans les dernières statistiques, c'est 80 ou 85% des bouteilles de vin vendues en grande surface. Donc il faut dire que dans cette mer de vin, nous on représente pas grand-chose finalement.
Oui.
Ouais.
Ça t'est déjà arrivé d'acheter du vin en grande surface? Comment tu te sens? Comment tu fais? Comment tu procèdes?
Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce que je fais, soit je vais vers un Bordeaux connu, donc quelque chose qui va être relativement cher. Hein. Souvent, c'est quand même assez cher. Vous savez, une espèce de cru classé, 1855, un Bordeaux reconnu, quoi. Je vais peut-être pas avoir de super surprise, mais au moins, je suis sûr que le vin, il tiendra la route. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller voir vers les gros négoces. Alors, il y a des gros négociants qui sont assez connus, comme je pense à Bouchard, ces grosses machines. Ce qu'on peut faire, c'est prendre la petite cuvée du négoce. Généralement, c'est des vins qui sont effectivement très techniques, qui vont pas être transcendants, mais qui vont tenir la route. De toute façon, là, on parle de choses qui tournent autour de 5 euros. Hein.
Oui.
Voilà, donc c'est vraiment des tout petits prix. Moi, ce qui me fait toujours un peu peur quand j'achète ce genre de vin, c'est de misérabiliser des gens derrière. Je sais pas comment ils sont payés, ça me fait un peu peur. Hein. Je sais qu'à 5 euros, on paye pas grand monde. Hein. Voilà, surtout s'il y a des actionnaires.
Oui.
Donc en grande surface, c'est un peu compliqué. En tout cas, on peut pas se dire tiens, moi j'adore le Bergerac. Je vais me prendre un Bergerac, il va être super, ou il va avoir le même goût que j'avais goûté là-bas. Ça va être forcément assez différent, quoi. Voilà. Et l'autre, je pense aussi, l'autre problème, c'est que il risque d'avoir le même goût, quoi. En fonction des régions, les mecs, ils ont toutes les mêmes techniques avec les mêmes apports et de levure et tout ça. Et donc, ils ont presque tous le même goût. Ça fait un peu peur, quoi.
Oui, il y a un côté très homogène.
Voilà, donc, en grande surface, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué, je pense.
Oui.
Ouais.
Et donc, chez les cavistes indépendants, il y a peut-être un peu plus, du coup, cette réflexion autour de quel vigneron on a derrière chaque bouteille.
Oui, et puis il y a un circuit qui est beaucoup plus court, hein, c'est tout bête. Hein, c'est-à-dire quand on donne de l'argent à son caviste, hein, ça va à lui, mais surtout au vigneron, et puis à l'État, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que le circuit de redistribution, il est très simple. En grande surface, c'est très compliqué. Ils conservent des stocks, ils redonnent ensuite parce que ça n'a pas été vendu. Enfin, c'est tout un truc qui est un peu flippant, quoi.
Oui.
Voilà.
Et tu valorises beaucoup donc ces liens forts que tu peux avoir avec certains vignerons, vigneronnes. Tu en fais venir aussi... le temps de dégustation dans ta cave. Et moi, je me rappelle d'un jour, on s'est vraiment trop marré en entrant chez toi. Il y a une espèce d'ascenseur qui donne vers vraiment
un monte-charge,
un monte-charge qui donne dans une cave. Et c'était le jour d'une dégustation. Et je pense que tu avais un coup dans le nez et que tu t'es accroché au monte-charge et tu avais trop l'air d'un pirate sur son bateau. Genre, on voulait goûter une bouteille et elle était pas en haut et tu nous as dit « Ah, pas de souci, je descends la chercher en bas !» Et on t'entendait chanter dans la cave, comme dans la cale d'un bateau. Et on s'est dit « Mais c'est trop bien, tout le monde tangue dans cet endroit. Tout le monde tangue et tout le monde est joyeux.
» c'est des vins qui donnent ça aussi. Hein. Ils sont sélectionnés pour ça, quoi. C'est pas des vins... Il y a des vins sérieux, c'est clair, mais nous, ce qu'on préfère aussi, c'est quand même des vins sympas. J'en reviens peut-être à ce que je disais, c'est-à-dire que moi aussi, j'aime bien les petits vins pour ça aussi, pour ce côté un peu détendu, quoi, aussi.
Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'une ou deux bouteilles que tu es hyper content d'avoir rentrées récemment?
Ouais, là j'ai une cuvée que j'aime beaucoup. La cuvée elle s'appelle Virard. J'ai plus le nom du vigneron, c'est vraiment ballot. C'est bête, mais alors je vais vous expliquer, c'est assez fou. En fait, c'est un jus de goutte. C'est-à-dire le jus de goutte, en fait, c'est les premiers jus qui vont sortir de la pression du raisin sur le raisin. C'est-à-dire que le raisin n'est pas encore passé au pressoir. Ensuite, après, on enlève le raisin, on le presse, et puis ça devient le jus de presse. Je fais référence, par exemple, au petit journal de Rapatel. En fait, c'est un vin de presse. Donc, c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça.
Oui.
Généralement, le jus de presse et le jus de goutte, ensuite, est assemblé, pour une question de volume et d'équilibre, et puis c'est mis en bouteille. Ben là, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conservé le jus de goutte d'un côté et le jus de presse de l'autre. Et le jus de goutte, il est fou parce qu'il est complètement rosé. En fait, c'est un rouge, mais très, très clairé. Et c'est une espèce de petit jus de fruit comme ça. J'adore.
J'ai goûté super. Le jus de goutte. Il faut maintenant que je passe chercher le jus de presse.
Tout ouais. à fait. Ça t'a plu, la Virard ?
Ouais, hyper.
Ah ouais, moi, j'ai adoré
super,
ça.
Super frais et hyper sur le fruit aussi.
Ouais. Et puis ensuite aussi, il y a un autre vin du Languedoc fait par Frédéric Agneret. Il vient de sortir ça, là, il n'y a pas très longtemps. C'est des grenaches, mais qui sont vinifiés à 12 degrés. Donc très léger comme ça, et très très bon. Et alors ce qui me fait marrer, c'est que moi je suis à Gare de l'Est, et j'ai grandi à Gare du Nord, et la cuvée s'appelle Gare du Nord. Et donc ça me fait un peu marrer. J'ai adoré ce vin, en une semaine tout est parti. Bon bref, faut dire qu'on a aidé le stock à descendre aussi. Voilà, et en fait il vient du Gard, c'est un mec qui vient du Nord et qui travaille dans le Gard. D'où le Gard du Nord.
Ah, d'accord.
Et dans le quartier du 10e, quand même, c'était important d'avoir ça et
ouais. Voilà,
ces petits clins d'œil sympas, quoi.
Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à ajouter ? Tu as l'impression qu'on pourrait aborder un dernier point ?
Ben, je pense aussi, ce qui est important pour comprendre les vins, c'est, je le conseille à tout le monde, c'est de les goûter jeunes. Généralement, on dit, oh là là, le vin, il est trop jeune, il n'est pas prêt à boire, donc ça ne sert à rien. Mais moi, je pense que pour bien comprendre un vin, il faut d'abord l'avoir bu jeune et ensuite plus tard. Mais plus tard, ce n'est pas dans 10 ans, hein. Plus tard, ça peut être dans un an. Mais on comprend mieux comme ça. Et en plus, c'est sympa parce que l'année d'après, on a le nouveau millésime du même vigneron qui vient. Et là, on commence à tout comprendre. On commence à piger comment il travaille.
Mmh.
Et en fait, au lieu de dire, bah, moi, j'aime le Bergerac, bah, non, moi, j'aime la façon de travailler de Frédéric, par exemple.
Vous voilà donc armé de quelques bases pour choisir un vin et le goûter. N'hésitez pas à mettre cet épisode dans les oreilles de celles et ceux qui s'intéressent au pinard sans trop oser en parler. Le vin appartient à tout le monde à partir du moment où on le boit. Alors n'ayez plus peur de décrire à voix haute ce que vous buvez, posez-vous la question de ce qui vous fait le plus plaisir dans un vin, puisqu'on n'a jamais tort lorsqu'on parle de ce que nos palais ressentent. À la vôtre ! On se retrouve mercredi prochain pour une autre facette de mon parcours culinaire. Ce sera l'occasion de parler de la cuisine du Nord, puisque je suis née et j'ai grandi à Lille. En attendant, suivez Bouffon sur les réseaux sociaux, c'est Bouffon NE, NE comme Nouvelles Écoutes. On a aussi une carte Mapster où on compile toutes les adresses mentionnées, vous y retrouverez donc la cave d'Antoine. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes présentée par moi, Émilie Lestari. Le générique a été réalisé par Aurore Meilleur-Mailleux, l'épisode a été monté et mixé par Thomas Delcourt, le tout coordonné par Laura Cuissard.